autour de la question. D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver, amis auditeurs, pour nous interroger sur les serpents aujourd'hui. Oui, les serpents qui nous font si peur, mais justement pourquoi? Pourquoi ces animaux fascinants sont-ils si mal aimés, victimes du délit de sale gueule? Comment dépasser nos craintes et nos préjugés? Comment changer de regard et de perspective sur ces étranges reptiles qui peuplent nos mythes et notre imaginaire pour le pire, mais aussi pour le meilleur? Comme nous allons le découvrir avec notre invité, un des rares chercheurs en France à les étudier de très près, l'herpétologiste Xavier Bonnet, mordu de serpent, pour reprendre le titre de son superbe ouvrage qui vient de paraître aux éditions Regards du Vivant, autour de la question « Pourquoi avoir peur des serpents ?» Bienvenue. Bonjour Xavier Bonnet.
Bonjour et merci pour l'invitation.
Merci d'être en direct avec nous pour nous faire découvrir ou plutôt redécouvrir les serpents en mettant de côté nos craintes et nos préjugés. Précisons que vous êtes un des plus éminents spécialistes mondiaux des serpents. Xavier, biologiste et directeur de recherche au CNRS, vous êtes un des rares chercheurs à les étudier d'aussi près au Centre d'études biologiques de Chizay et sur tous les continents, notamment sur le continent africain, ce qui explique que vous soyez à tous les sens du terme mordu de serpents. Pour reprendre le titre de ce magnifique ouvrage que vous venez de publier avec les superbes photos de Maxime Briolla aux éditions Regards du Vivant, vous en aviez déjà publié une première version, Xavier Bonnet, sous-titrée « Éloge amoureux de la créature maudite ». Le serpent, les serpents sont victimes de leur mauvaise réputation, voire d'un délit de sale gueule.
Ah oui, oui, ça c'est complètement sûr. Et je crois que les serpents, ce sont les animaux qui sont les moins aimés. De loin, hein. Je crois que c'est encore pire que pour les araignées ou d'autres animaux qui ne sont pas tellement appréciés. Et les gens les tuent en grand nombre, sans aucune raison. Il y en a même qui sont sadiques. Vous faites quelques petites expériences en plaçant des serpents en plastique le long des routes, et parfois les automobilistes les écrasent, reculent, repassent dessus. Donc c'est complètement exagéré la réaction des gens vis-à-vis de ces animaux.
Alors pourquoi? Moi j'en ai peur, hein, pour tout vous dire, mais... En lisant votre livre, je commence à les aimer un peu plus, à le trouver déjà très beau. On se rend compte en tout cas qu'ils sont présents dans toutes les mythologies, avec une image pas du tout si négative que ça, dans les autres histoires du monde, dans les autres cosmologies.
Ben, même dans nos propres racines culturelles européennes. Hein. Donc quand on fait le tour des mythologies de la planète, le serpent a une place très importante. Hein. C'est peut-être un des animaux les plus représentés, hein. C'est peut-être même le cas, hein. Certains... spécialistes le disent.
Et qui symbolise
Alors, il symbolise principalement la vie, la femme aussi, mais la femme dans le sens créatrice, celle qui amène la vie. Et aussi la sagesse, l'éternité. Et autour de tout ça, il y a un symbole majeur, c'est celui de l'eau. L'eau comme source de vie.
L'eau comme source de vie, pour parler des serpents. Alors là, vous remontez un peu leur réputation, mais tout de même, l'actualité, ce week-end, Xavier Bonnet, je ne sais pas si c'est un fait exprès ou pas, on rajoute un peu dans le côté gore des serpents. En Indonésie, une femme s'est fait avaler toute crue par un python géant de 7 mètres. Là, il y a quand même de quoi avoir peur.
Bon, ben vous me l'avez appris juste tout à l'heure. Alors, ça peut arriver, hein. Donc je n'ai pas pu vérifier cette information, mais il est possible que ce soit vrai. C'est arrivé quelques fois que des gros serpents avalent des humains de petite taille. Bon, ça reste extrêmement rare. Mais ce qui est beaucoup plus fréquent, c'est que les serpents venimeux tuent des dizaines ou peut-être même des centaines de milliers de personnes par an. Donc il est normal que les serpents fassent peur. Mais ce n'est pas une raison qui explique pourquoi ils ont une image aussi négative.
Autour de la question « Pourquoi avoir peur ou pas des serpents ?», cette fois-ci c'est Mathieu Novak du mensuel « Science et Avenir » qui vous retourne la question.
Est-ce qu'on a peur des serpents de façon innée et est-ce que ceux qui aiment les serpents sont juste des gens bizarres?
Votre réponse, Xavier Bonnet, vous êtes peut-être quelqu'un de bizarre puisque vous aimez les serpents.
J'espère être un petit peu bizarre, sinon ce serait ennuyeux pour ceux qui sont autour de moi.
Mais est-ce qu'avoir peur des serpents, vous y consacrez un chapitre hein, dans ce très beau livre Mordu de serpents, est-ce que c'est inné ou est-ce que c'est acquis?
Voilà, cette question était vraiment une très bonne question. Alors, on n'a pas de réponse définitive. Personnellement, je ne pense pas que ce soit vraiment une peur innée, inscrite dans nos gènes. Il me semble qu'il est plus raisonnable de penser que les serpents exploitent un message que beaucoup d'animaux, y compris les hommes, sont capables de comprendre à partir de certains motifs, de certains bruits et certaines postures. Et donc là, ils lancent des signaux d'avertissement, notamment les serpents venimeux, que à peu près n'importe qui est capable de comprendre. Alors, je n'ai pas pu vous amener de serpent dans le studio, parce que ça aurait été triste pour lui de faire tout ce trajet en train. Mais j'aurais pu, si ça avait été plus facile, vous amener un crotal et vous auriez
un
tout de
crotal.
Suite... Oui, voilà, vous auriez tout de suite compris le message quand il est inquiet, qui vous adresserait en gros, ça voudrait dire ne t'approche pas. N'importe qui va comprendre son message.
Ce que vous dites, c'est que les serpents venimeux, ils préviennent.
Oui, ils préviennent.
Avant d'attaquer leur proie. Donc il suffirait d'écouter, de faire attention.
Voilà. Après, il peut y avoir la malchance, évidemment, bien sûr. Donc c'est ça qu'ils exploitent et c'est ça que certains chercheurs qui voulaient trouver à tout prix des serpents maléfiques lovés dans notre cerveau ont découvert. Mais ils n'ont pas démontré qu'on avait une peur innée des serpents spécifiquement. En tout cas, ils l'ont très mal fait. Puisque d'autres expériences qui ont été faites, notamment au Canada, ont obtenu les mêmes résultats avec des pistolets. Or, l'hypothèse qui est avancée par les chercheurs qui nous prétendent que c'est inné et que c'est au cours des millions d'années d'évolution de l'homme en tant que singe, puis en tant qu'humain avec les serpents, que ce serait installé dans nos gènes.
Une sorte de phobie, en fait.
Voilà, cette phobie, ce serait installé dans nos gènes. Alors, on explique très mal comment ça marche avec les pistolets, qui n'ont pas accompagné l'homme au cours de son évolution.
Donc, ce ne serait pas une phobie. Et d'ailleurs, vous dites aussi que la peur, finalement, ce n'est pas la bonne réponse face à un serpent. Même si, finalement, on ne sait pas très bien si c'est inné ou si c'est acquis. Vous dites que c'est plutôt une question de culture. Mais de toute façon, ce n'est pas la meilleure des réponses possibles. Donc, l'évolution n'aura peut-être pas favorisé ça chez l'homme, cette peur, cette phobie des serpents.
Oui, bien sûr. Hein. Les éléments de réponse que j'ai donnés avant sont très, très incomplets. Hein, parce qu'il faudrait presque y consacrer plusieurs heures d'émission pour l'éclaircir, ce sujet, qui est un sujet très compliqué, celui des phobies. Mais ce que vous dites là, c'est exact. De toute façon, imaginons que j'ai tort et qu'il y ait bien, ce soit bien une peur innée. Dans tous les cas, favoriser ou répondre par des phobies ou des réactions disproportionnées, c'est vraiment pas approprié. C'est inconfortable. Dans ce cas-là, moi, je pense pas être bizarre. L'impression que j'ai, c'est que, comme mes frères et sœurs, on n'a pas peur des animaux, tout simplement parce que nos parents ne nous ont pas fait peur avec les animaux.
Vous n'avez pas peur des serpents. Vous êtes mordu de serpents à plus d'un titre, puisque vous vous êtes fait mordre par des serpents.
Oui.
Vous les manipulez, mais vous n'avez pas peur des serpents.
Je me suis mordre par des serpents dangereux, j'ai été soigné, j'en ai toujours pas peur. J'ai eu des accidents de la circulation, je suis toujours pas terrorisé quand je vois une moto ou une voiture.
D'accord, donc pas de quoi être terrorisé quand on voit un serpent. La prochaine fois que vous venez, vous m'amènerez un crotal quand même. J'espère que je vous déplacerai jusqu'à Chizet pour voir le crotal.
Je préfère vous inviter, vous verrez, ce sont des animaux magnifiques.
Ce sont des animaux magnifiques, parce que c'est ça qu'on découvre aussi en regardant ce livre, Mordu de serpent. Ils sont extraordinairement beaux, ils sont extraordinairement variés. On va faire un peu plus connaissance avec eux, peut-être pour en avoir moins peur. Qu'est-ce qui définit les serpents? Comment donner une définition? C'est un animal qui n'a pas de pattes? C'est un animal qui mue? Comment vous le définiriez, le serpent,
Alors,
Xavier Bonnet?
Il y a un petit peu deux définitions. L'approche esthétique, qui est très importante, je pense que c'est celle qui a largement inspiré le fait qu'il soit dans d'aussi nombreuses mythologies. Ce sont souvent des symboles très positifs, quoi. Et le côté esthétique, c'est évidemment la fluidité de leur mouvement, la souplesse et les motifs répétés qu'il y a sur leur peau, qui sont très jolis. Effectivement, lorsqu'ils muent, ils sont remis à neuf et donc ils ont toujours un aspect un peu de joyau. En fait, c'est ça qui est stupéfiant quand on les voit. Ils sont vraiment très jolis, très souples, délicats.
Donc délicat, ça, c'est le côté... oui.
Ah oui, délicats. Quand on les étudie, ce sont des animaux délicats. Il n'y a pas de doute là-dessus. Hein. Je ne me trompe pas de mots. Donc il y a ça d'un côté. De l'autre côté, la définition biologique, ce sont en fait des lézards qui se sont allongés. Leur corps s'est considérablement allongé et ils ont perdu leurs pattes. Donc ça fait des lézards allongés sans pattes.
Ils sont plus proches des lézards. On appelle ça des reptiles, mais les serpents, c'est quoi? C'est la même famille que les lézards. Et c'est très loin des autres reptiles? C'est pas la même famille?
Alors, ça c'est une question qui est compliquée. Mmh. Parce que le mot reptile est ce qu'on appelle un mot fourre-tout. C'est pas le terme officiel.
Mais on vous comprend.
Voilà, j'utilise le mot fourre-tout. Et dans les reptiles, on trouve par exemple les oiseaux.
Descendants des dinosaures.
Oui, qui sont des dinosaures. Il y a aussi évidemment des dinosaures et beaucoup d'autres animaux. La plupart des lignées se sont éteintes, mais il en reste encore actuellement. Mais pour vous surprendre, enfin au moins surprendre les auditeurs, un crocodile et un oiseau sont davantage apparentés l'un à l'autre qu'un crocodile et un varan. Alors les apparences sont trompeuses.
C'est-à-dire que les serpents, les lézards, les varans sont beaucoup plus loin des crocodiles que les oiseaux, par exemple.
Oui, oui, oui. Ça, c'est, les apparences sont vraiment surprenantes. Mais bon, c'est ce que fait l'évolution. Elle modèle les organismes et puis elle peut donner des apparences qui trompent l'œil, quoi. Mais quand on regarde de près, il n'y a pas de doute, les serpents sont des lézards. Ils font partie des lézards. C'est un groupe où il y a beaucoup d'espèces, hein, beaucoup de familles.
Combien d'espèces? Énormément.
Alors,
de,
approximativement 10 000. Je dis ça approximativement.
Approximativement 10 000 espèces différentes.
Oui, de lézards, hein, de lézards. Je dis approximativement parce qu'on en découvre régulièrement. Et puis la notion d'espèce elle-même est une notion d'étiquette qui est figée et qui s'oppose au fait que l'évolution, elle, ça change sans arrêt. Donc c'est pour ça que je dis approximativement.
Et au niveau des serpents?
Et les serpents représentent à peu près un tiers, ce qui fait plus de 3 000 espèces. Ça fait vraiment beaucoup d'espèces.
On peut se demander pourquoi ils sont si peu ou si mal étudiés. Vous n'êtes pas très nombreux, hein, je crois, des herpétologues, des chercheurs spécialisés dans les serpents, Xavier Bonnet.
Alors là, je peux répondre uniquement par des spéculations, mais j'imagine que les biologistes, les écologues et autres ont peur des serpents, comme la plupart des gens, et n'ont pas tellement envie de les étudier. Il se trouve que j'ai fait une petite étude quand même il y a quelques années, et j'ai regardé en fonction des grandes régions géographiques ce qu'étudiaient les chercheurs en écologie. En Europe, nous sommes très conservateurs, oiseaux, mammifères. Et ce qui est rigolo, même lorsque les Européens vont en Afrique, ils continuent d'étudier les oiseaux et les mammifères. On traverse la Manche, on arrive aux États-Unis et au Canada. Là, la diversité des espèces augmente. Et on va dans un pays où c'est encore plus pionnier, l'Australie, la diversité des espèces augmente encore plus. Ce qui fait que bien qu'il y ait beaucoup moins de chercheurs en Australie, ils étudient beaucoup plus les serpents qu'en Europe.
Autour de la question des serpents, vous avez choisi, vous qui étudiez les serpents et qui n'en avez pas peur, Xavier Bonnet, vous avez choisi d'écouter Cheklo sur RFI. Le morceau s'appelle Guis Guis. Vous nous expliquerez pourquoi ensuite. Sur RFI, voix d'or du Sénégal. Pourquoi ce choix, Xavier Bonnet?
Bon, d'abord, j'ai une nostalgie pour l'Afrique noire.
Ouais.
Alors, j'ai eu la chance de visiter le Sénégal et j'ai vécu avec la famille aussi en Côte d'Ivoire. Et puis, j'ai travaillé aussi sur les pitons au Togo, un peu au Bénin. Bon, voilà, déjà, c'est une première raison. La deuxième, c'est que cette musique, je la trouve douce. Et donc, elle s'accorde bien avec l'image que, des serpents, en fait, la vraie image. Celle que les gens devraient se donner la peine de forger, si les regardaient. Et enfin, ce petit morceau, il parle d'arbres et de sagesse, des symboles intimement attachés aux serpents.
Donc l'arbre, la sagesse, c'est vrai que les serpents sont aussi sur nos caducées, que les serpents, dans toutes leurs ambiguïtés, ils sont le symbole du pire, parfois, et du meilleur aussi, certainement.
Oui, mais l'équilibre entre le pire et le meilleur, lorsqu'on regarde la mythologie, c'est 90% de bon et 10% d'effrayant, quoi. En gros, hein. Cela dit, sur le caducée, le symbole, c'est celui de la connaissance et du savoir, hein. C'est pas du tout poison contre poison, enfin ce genre de baliverne que j'ai pu lire de gauche. Ah oui, oui, oui. De toute façon, ce mythe, il est très, très ancien. Donc on en retrouve des traces, évidemment, dans la mythologie grecque classique, mais avant dans la mythologie égyptienne et avant en Mésopotamie. Donc, et d'ailleurs, le fait que les arbres et les serpents soient associés se trouve aussi dans des mythologies scandinaves, russes, chinoises, indiennes, australiennes, américaines. Enfin bon, c'est le caducé, ce n'est qu'un reflet de la puissance de l'association entre le serpent et l'arbre. L'arbre dont les racines plongent dans la terre-mère. Et qui apporte le savoir, évidemment.
Les serpents sont des légendes. Autour de la question, pourquoi avoir peur des serpents et comment justement dépasser nos craintes et nos préjugés, autrement qu'en faisant un peu plus connaissance avec ces animaux fascinants que vous étudiez, Xavier Bonnet. On l'a dit, vous n'êtes pas si nombreux à étudier les serpents, et il y en a pourtant tellement d'espèces et tant à découvrir. Nouvelle question tout de suite sur leur évolution, soulevée par Cécile Estienne, du mensuel Cerveau et Psycho.
Je crois savoir que les serpents descendent dans cette quadrupèdre. Est-ce qu'on sait aujourd'hui comment les serpents ont perdu leurs pattes ?
Est-ce qu'on le sait, Xavier Bonnet ? Est-ce qu'on peut répondre à cette question ?
Alors, telle qu'elle est posée, il est très très difficile d'y répondre. En revanche, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est-à-dire que nous avons, pas moi, hein, mes collègues paléontologues, ont trouvé petit à petit des fossiles sur une échelle de temps qui remonte de maintenant jusqu'à à peu près 150 millions d'années, des fossiles de serpents avec des pattes, c'est-à-dire des lézards allongés avec des petites pattes. Parfois, c'est ambigu, on ne sait plus très bien si c'est du lézard ou du serpent. Donc, il est sûr que ce qui s'est produit, c'est une réduction des pattes avec un allongement du corps. Comment on peut répondre à une partie avec les données dont nous disposons actuellement en faisant des investigations génétiques, c'est-à-dire que les gènes qui contrôlent le développement des pattes ont été identifiés et on s'aperçoit qu'effectivement ces gènes-là sont réprimés chez les serpents actuels.
Parce que, alors évidemment il n'y a jamais de réponse immédiate, mais parce qu'il est plus facile de se déplacer pour un serpent sans pattes, il est beaucoup plus agile.
Voilà où ça devient difficile. Et maintenant, oui. Dans quel contexte et quelles sont les forces qui ont poussé cette sélection avec la perte des pattes. Il y a deux grandes hypothèses qui s'affrontent. L'une dit que ce serait peut-être un retour à la vie marine. Les serpents sont bien des quadrupèdes, donc ils sont issus de à peu près 385 millions d'années d'organismes qui ont quitté les eaux. Nous en sommes nous-mêmes les descendants, hein, avec nos quatre pattes. Mmh. Et certains sont retournés à la vie marine. Bon, c'est le cas des dauphins, par exemple, et les serpents aussi, qui sont des lézards qui sont retournés à la vie marine. C'est une hypothèse. L'autre hypothèse serait que ce serait adapté à la vie fouisseuse. Et dans les deux cas, les pattes auraient été plus un handicap qu'un avantage pour onduler, aussi bien dans l'eau que sous le sol.
Dans l'eau, parce qu'on se rend compte aussi, alors quand vous parlez des mythologies, c'est le cas, le serpent est symbole de l'eau, mais les serpents qu'on associe dans notre imaginaire un peu faussé quand même, souvent au désert, sont très présents dans l'eau. Ils ondoient beaucoup dans l'eau, les serpents.
Oui, ce ne sera pas possible de faire une recension des idées fausses au sujet des serpents. Mmh. Parce que là, il faudrait consacrer plusieurs heures. Comme vous le dites, le fait d'associer les serpents à un milieu rocailleux et sec, ce n'est pas une bonne idée. Hein, parce que la plupart du temps, ils sont abondants près de l'eau. Et d'ailleurs, nous allons les étudier principalement près de l'eau. Quoi, que ce soit près de la mer ou près de lacs ou de rivières. C'est là qu'on en trouve le plus.
Vous les avez étudiés un peu partout dans le monde. Il y a des endroits dans le monde qui sont de vrais paradis pour les serpents. Vous les citez dans ce livre, Mordu de serpents. Alors, il y a une île aux serpents en Chine. C'est Shedao. Il n'y a que des serpents ?
Il n'y a pas que des serpents, mais c'est effectivement un paradis. Alors, pour répondre à la première partie de votre question, pourquoi nous allons sur des îles ? Des petites îles. C'est très simple, parce que les petites îles ont été oubliées par les hommes. Et elles restent effectivement des petits paradis, où la nature est à peu près intacte et où les serpents n'ont pas été massacrés. La réponse est très simple. Autrefois, les serpents étaient abondants un peu partout, mais à force d'être tués, ils ont disparu.
Et vous les étudiez aussi sur une petite île en Macédoine qui s'appelle Golemgrad et qui est là aussi une île aux serpents.
Oui, alors moi, je suis un peu feignant, donc j'aime bien sélectionner des îles où il y a beaucoup d'animaux, comme ça, je n'ai pas besoin de fournir beaucoup d'efforts pour récolter beaucoup de données. Bon, mais c'est aussi parce que c'est vraiment paradisiaque pour les herpétologues. Hein. Et j'oublie un bout de votre question.
Oui, le paradis pour un herpétologue, c'est de marcher et d'être entouré de serpents. C'est ça, c'est notre cauchemar à nous quand même. Hein.
Oui, alors, pas spécialement de serpents, disons, de vie.
De vie.
Voilà, de vie. Alors pour mon travail, c'est commode qu'il y ait des serpents ou des tortues. Hein. parce que je travaille sur ces animaux. Mais le paradis, c'est quand il y a beaucoup de vie. C'est surtout ça qui est paradisiaque, je pense, pour la plupart des naturalistes.
Comment elle se reproduit, justement, cette vie? À ce sujet, nouvelle question pour vous, soulevée par un éthologue, il s'appelle Ludovic Diquet. Il est spécialiste, lui, des céphalopodes, c'est-à-dire qu'il étudie les comportements et l'intelligence des poulpes, la mémoire des sèches, entre autres. Il était récemment notre invité. Écoutez sa question, elle est pour vous.
Est-ce que les mamans serpents s'occupent de leurs œufs ou de leurs petits? Et est-ce que le sexe des serpents est déterminé à la fécondation ou est-ce qu'il dépend de l'éclosion, de l'incubation?
Votre réponse, Xavier Bonnet.
Bon, c'est encore une question très compliquée, mais j'essaie de donner des petits bouts de réponse.
Sur la reproduction et la sexualité des serpents.
Oui, alors d'abord la première question, est-ce que les mamans s'occupent de leurs œufs? Alors d'abord, c'est vrai pour toutes les espèces qui sont vivipares. La vipère de chez nous, comme son nom l'indique, est vivipare. C'est simplement une contraction de vivipare. Elle s'en occupe parce qu'elle les a dans le ventre, donc elle est bien obligée de s'en occuper, hein, jusqu'à la mise bas. Puis après, les familles se séparent. Les pitons, dont on parlait tout à l'heure...
Les grands pitons, certains peuvent atteindre jusqu'à 10 mètres, hein, c'est monstrueux.
Alors le 10 mètres, il n'est pas encore enregistré.
Ah, c'est quoi le maximum pour un piton?
Il semblerait que ce soit entre 8 et 9 mètres.
C'est déjà pas mal.
Ça fait un animal impressionnant. Mais déjà, 4 mètres, ça fait un animal énorme. En tout cas, les pitons, ou les pitons, puisque ce sont les femelles, oui, couvent leurs œufs avec attention pendant plusieurs mois. Oui, ce sont des mères exemplaires. Elles ont une capacité à s'occuper de leurs œufs qui est invraisemblable. Voilà. Ensuite, il y a quelques crotales qui restent, disons, avec leurs descendants après la naissance, qui sont vivipares aussi. Donc, dans une certaine mesure, on voit qu'il y a une grande diversité, mais il n'y a rien de comparable à ce qu'il y a chez les oiseaux ou les mammifères, où les soins parentaux après la naissance sont très développés.
Donc, ce n'est pas le cas chez les serpents. Et qu'en est-il avant la naissance de leur sexualité à ces serpents?
Alors, avant, la première partie, ça va être pour la plupart des espèces l'accouplement, puisque presque toutes les espèces ont besoin de s'accoupler pour faire des petits. Et le sexe est alors déterminé, effectivement, génétiquement. Donc, ce n'est pas comme chez les tortues, les crocodiles ou quelques autres lézards où le sexe est déterminé par l'environnement, notamment la température d'incubation. Il y a quelques serpents parthénogénétiques. Partheno, c'est Athéna.
Ils se débrouillent tout seuls.
Alors, c'est la femelle qui se débrouille toute seule pour faire ses petits. Oui, il y a quelques espèces comme ça. Mais pas beaucoup, hein, il y en a quelques-unes. Et donc, c'est intéressant parce que Parthéna, c'est Athéna, une déesse qui était entourée de serpents sacrés.
Là encore, on en revient à la mythologie.
Mais oui, c'est invraisemblable.
Dès qu'on touche au serpent, on en revient à la mythologie. Est-ce que ce n'est pas aussi parce que justement, ces animaux peuvent faire peur? Vous vous êtes déjà trouvé face à un piton de 4 mètres, Xavier?
Oui, j'ai vu des gros animaux. Alors, est-ce que j'ai eu peur? Ben, non, pas vraiment. J'ai eu peur au cours de transport en mer, lorsqu'il y avait la tempête, dans le bateau, ce genre de choses, oui, parce que on se sent à la merci des éléments. Face aux serpents, tant qu'on reste calme, normalement, il n'y a pas de problème.
Normalement, il n'y a pas de problème, mais en même temps, alors j'y reviens quand même à cette terrible nouvelle de cette femme indonésienne qui, ce week-end, s'est fait avaler par un serpent qui était dans son champ. Comment est-ce qu'un serpent peut avaler une proie pareille?
Alors bon, j'ai...
Il l'a digéré.
Je l'ai dit, je découvrais la nouvelle tout à l'heure. Mais il y a déjà eu quelques cas d'enfants en Afrique ou en Asie ou d'hommes de petite taille, hommes ou femmes, disons d'adultes de petite taille, qui ont été mangés par des grands serpents. Donc c'était des pitons systématiquement, des grands pitons. Mais ça reste très rare. Donc le fait que ça marque autant les gens, c'est parce que ça renvoie une image. En fait, les risques d'être tué par un serpent, un python, sont à peu près égaux à zéro. Voilà, le danger, ce sont les serpents venimeux.
On va y revenir après avoir écouté un autre serpent, lui aussi venimeux, d'ailleurs l'incontournable cas du Livre de la Jungle, revisité par Sushila Raman sur RFI Trust in Me. Sheila Raman sur RFI, Trust in Me, autour de la question pourquoi avoir peur ou pas des serpents. Un de nos auditeurs, un Ouagadougou, il s'appelle Malik, et il nous demande sur les réseaux sociaux, il nous dit qu'il a peur des serpents à cause de leur venin, et vous dites qu'effectivement les serpents venimeux, il faut s'en méfier. Il vous demande, Xavier Bonnet, quel est le serpent le plus venimeux au monde et où trouve-t-on ?
Oui, alors ça c'est une question difficile. Je suppose que par cette question, il veut dire quel est le serpent le plus dangereux pour l'homme. Parce que le venin des serpents, donc, il sert à tuer leur proie. Et l'homme n'est pas une proie. Or, il se trouve que malheureusement, l'homme peut être victime du venin des serpents. Alors, ce n'est pas du tout parce qu'il nous vise. C'est que le venin est très compliqué. Et la raison pour laquelle il est compliqué, c'est parce que ça empêche les proies potentielles de trouver des parades, de trouver des défenses. Elles n'arrivent jamais à trouver la solution pour contrer le venin aussi compliqué des serpents. Et malheureusement, de temps en temps, dans les formules chimiques que déploient les serpents, il y en a qui nous touchent. Bon, alors...
On n'est pas des proies pour les serpents. Non. Les serpents venimeux, ils piquent. Quelles sont leurs proies aux serpents venimeux ?
Ah ben alors, c'est très vaste parce qu'il y a beaucoup d'espèces de serpents. Il y en a beaucoup qui sont venimeux. Ça va depuis des toutes petites proies des petits insectes qui sont capables de tuer avec leur venin. Généralement, ces espèces-là sont inoffensives pour nous. Jusqu'à des serpents qui vont tuer, par exemple, des gros mammifères comme des gros rats. Et eux sont plus dangereux pour nous parce que nous ressemblons davantage à un rat qu'à un insecte. Et donc le venin, ben, il y a des risques qui puissent nous tuer, quoi.
Alors ces venins extrêmement sophistiqués, extrêmement compliqués, on les étudie, on a réussi à trouver la parade, c'est-à-dire un sérum, sauf qu'il y a aujourd'hui une autre grosse question qu'on a envie de soulever autour de la question sur RFI. Ce sérum qui fonctionne, qui est carrément un remède miracle quand on est envenimé, piqué par un serpent venimeux. Ce sérum, l'Institut Curie...
Pasteur Sanofi.
L'Institut Pasteur Sanofi, excusez-moi, ouais. Qui le produisait, a cessé sa production pour la reprendre maintenant uniquement en France. C'est
oui.
Ça
oui, oui. Alors, juste, on n'avait pas tout à fait fini de répondre à la question de l'auditeur. Mais donc, les serpents les plus dangereux sont généralement les plus gros et ceux avec lesquels ceux qu'on manipule. Alors, il se trouve que les gens qui sont à l'extérieur peuvent marcher dessus et se faire mordre. Donc, les plus dangereux sont les venimeux les plus gros, généralement, quoi. Donc, c'est souvent des vipères, des cobras, ou bon, ce genre d'espèces.
Hein. Et qui se trouvent, quoi, plutôt sur la bande intertropicale, en Afrique ?
Alors là où il y a le plus d'accidents, ça reste en Asie.
D'accord.
Avec la vipère du Russel et certains cobras, il y a plusieurs espèces. Et ensuite, en Afrique, ce sont d'autres vipères, des cobras, et dans une moindre mesure, les mambas. Mais les très grosses vipères, comme les vipères du Gabon, par exemple, j'en ai élevé une qui avait fait dépasser les 2 mètres. Elle était vraiment impressionnante. Sont potentiellement très dangereuses parce qu'énormes, mais elles ne mordent pas facilement, quoi.
Donc, elles sont énormes, donc le venin, si elles vous mordent, là c'est vraiment...
C'est la catastrophe, parce que c'est pas un venin qui est très puissant, elle en met une telle dose que c'est catastrophique. Mais du coup, comme elle ne mord pas facilement, il y a même des légendes qui disent que c'est le troisième qui marche dessus qui se fait mordre, et ce genre de choses... Ce n'est pas forcément les plus dangereuses. Donc la question de l'auditeur est compliquée. Les serpents les plus dangereux potentiellement vivent en Australie. Mais en Australie, il y a très peu d'accidents parce qu'il y a moins de gens au champ. Pieds nus, voilà. Donc c'est une
parce
question
que c'est,
compliquée.
Voilà, et parce que c'est par hasard, par malchance et
c'est
par hasard.
Malchance. Ou les gens qui essaient de taper dessus. Les serpents ripostent. Il y a beaucoup d'accidents lorsque les gens essaient de les tuer.
En fait, il faut les laisser tranquilles et se faire aussi discret qu'ils le
font. Si on en voit un, il faut surtout le laisser partir. Parce qu'engager le combat, c'est prendre des gros risques.
Le laisser partir, ça serait votre conseil.
Oui. Parce que les gens qui se font mordre, généralement, ils prennent un bâton, ils tapent dessus, le serpent n'est pas toujours d'accord. Et s'il est gros et puissant, ben, il peut riposter.
Alors, on en arrive au sérum, voilà. Donc à ce remède miracle. Vous avez vous-même, vous l'avez dit, Xavier Bonnet a été mordu par des serpents venimeux.
Oui.
Et vous devez la vie sauve au sérum.
C'est bien possible. Alors, je n'ai pas essayé sans, mais il y a des cas où c'était important de bénéficier du sérum. Et c'est effectivement, comme vous le dites, miraculeux. Donc j'ai été mordu par des gros animaux. Bon, c'est pas de chance, c'est comme le menuisier qui finit par se taper sur les doigts à force, quoi. Nous, on en manipule tellement que des fois, ben, on n'a pas de bol. Voilà. J'ai été conduit à l'hôpital, le sérum m'a soigné, le lendemain, j'étais sur pied. Alors que sans sérum, ben, je serais peut-être pas là pour vous parler, quoi. Donc c'est miraculeux.
Et donc nous disions que l'Institut Pasteur,
Sanofi
qui...
fournissait l'Afrique noire, enfin voilà. L'Afrique, disons, plutôt francophone. Et aussi la France, parce que nous avons des espèces dangereuses en France. Il y a 2 espèces de vipères qui sont dangereuses. Et donc la production a été arrêtée, et donc la pénurie était vers 2016. Je ne suis pas sûr qu'elle ait reprise. Une de mes étudiantes l'an dernier a failli être victime de cette pénurie. en France, puisque ça a été compliqué d'obtenir une ampoule de sérum. Et pour l'Afrique, je ne sais pas où on en est, mais en gros, ce n'était pas suffisamment rentable, ils ne vendaient pas assez d'ampoules, et donc les pays ne sont plus approvisionnés, ou approvisionnés par des sérums de mauvaise qualité.
Donc il faudrait vraiment lancer un appel pour la production de sérums par l'Institut Pasteur Sanofi à destination de la France, de l'Afrique.
Oui, c'est triste, parce qu'évidemment, le couple Pasteur Sanofi, ils trouvent que ce n'est pas rentable, donc ils arrêtent la production. Mais donc ils n'ont pas été contraints d'une façon ou d'une autre de continuer la production, ce qui fait que le produit n'est plus disponible.
Donc il faudrait que l'État contraigne l'Institut Pasteur Sanofi à produire du sérum.
Je ne sais pas par quel système, mais en tout cas c'est parfaitement anormal comme situation.
C'est dit autour de la question pourquoi avoir ou ne pas avoir peur des serpents. Ici et maintenant, votre choix musical, c'est Salif Keita sur RFI Hier. Salif Keita sur RFI, joli choix, Xavier Bonnet, qu'est-ce que ça évoque pour vous ?
Alors comme tout à l'heure, c'était encore la douceur, puis au début je trouvais que même ça faisait penser à les premières notes, ça fait penser un peu à la pluie, donc ce qui va bien avec le symbole majeur du serpent, hein, le serpent arc-en-ciel.
Et, serpent arc-en-ciel.
Oui, on n'a pas tout entendu, il y a aussi des voix de femmes dans ce morceau qui sont vraiment magnifiques et très douces.
Ah, on va peut-être les remonter un peu. Femme modo fate sarakabo ala te misiki naso. Femme modo feni duma. Bon, les voix de femmes, on va renvoyer nos auditeurs au disque de Salif Keita sur RFI autour de la question pourquoi avoir peur des serpents. Au fond, c'est peut-être plutôt eux qui doivent avoir peur de nous, Xavier Bonnet. Les serpents sont menacés, comme ils sont mal aimés, il n'y a personne pour les protéger.
Oui, c'est une triste situation. Donc à peu près partout sur la planète, les populations fondent comme neige au soleil. Et ça n'éveille pas beaucoup la compassion. Juste un petit exemple. Aux États-Unis, il y a des espèces de spectacles qui sont faits avec des crotales, où c'est une boucherie. Donc les crotales sont capturées, maltraitées, on leur coule la bouche à vif pour les montrer au public sans risque de morsure. On les décapite et tout ça c'est organisé, c'est une espèce de gros spectacle, hein, des immenses corridas. Les gamins coupent la tête des serpents en toute sécurité pour eux, donc ensuite trempent leurs mains dans le sang, tapissent des murs avec leurs mains, signent, on élit Miss Snake Charmer. Voilà, donc c'est une orgie de massacre de serpents.
Mais qui sont les sauvages là-dedans, c'est pas les serpents.
Hein. Et non, voilà. Donc ça on l'accepte dans notre monde. Et donc effectivement, ils disparaissent sans laisser de traces. Et c'est bien triste. Et toutes les informations que nous collectons sont vraiment inquiétantes. Et c'est dommage, c'est vraiment dommage.
Tous les serpents sont menacés parce qu'on pourrait, alors c'est encore très anthropocentré, mais on pourrait faire une différence entre vipères et couleuvres, entre serpents venimeux et pas venimeux, ou on les met tous dans le même sac
Alors pourquoi pas, mais il se trouve que les gens ne savent pas les reconnaître. De toute façon, ils tuent les uns comme les autres indistinctement. Donc rares sont les gens qui sont capables de reconnaître les espèces. Et ça, c'est vrai à peu près partout dans le monde. Puisque c'est ce que veut notre époque, les gens sont déconnectés de la nature. Donc effectivement, si je vais au Togo avec des chasseurs de la forêt, eux, ils savent reconnaître les espèces, très bien. Mais la plupart des gens ne sont plus connectés à la nature, en Afrique, en Australie, comme ailleurs.
On ne sait plus reconnaître les serpents qui en plus vivent, et ça vous le dites bien, vivent souvent cachés. Ils sont très discrets, les serpents, autre qualité.
C'est ce qui les sauve, sinon on n'en aurait peut-être plus.
Parce qu'ils sont extraordinairement beaux. Alors on est à la radio, c'est un peu compliqué d'expliquer ou de raconter les photographies de Maxime Briolla. Quel est, vous, le serpent que vous pourriez nous décrire et qui vous charme le plus, Xavier Bonnet?
C'est difficile, j'ai des préférences pour tous. Mais bon, il y a celui de la couverture, là, qui est
magnifique,
une couleuvre...
qui est en train de muer, hein, c'est ça?
Oui,
hein,
c'est ça, c'est une couleuvre verte et jaune. Celui-ci, je l'aime bien, donc j'ai un peu d'affection pour ce serpent, parce que quand on le voit dans la nature, il fait partie de ces serpents qui se redressent, qui regardent autour d'eux, et donc ben, ça renvoie une image d'animal curieux. Donc bon, ça donne l'illusion,
oui,
qu'on échange quelque chose, quoi.
Vous avez l'impression, vous, d'échanger quelque chose dans le regard du serpent?
Alors le serpent, quand il me voit, je pense qu'il a uniquement de l'inquiétude.
Lui, il a peur, hein,
oui,
le serpent. Et alors, vous, alors, vous échangez quoi de
d'œil à œil? C'est de l'admiration. Alors, il est vrai qu'il y a des serpents qui n'ont pas tellement peur de nous, et c'est plutôt dans des endroits où ils sont tranquilles. C'est arrivé en Australie, des pitons sur des îles qui couvaient leurs œufs, et on pouvait les toucher sans qu'ils réagissent, parce que l'homme n'est pas un prédateur. Mais on ne l'intéressait pas plus que ça. Donc le serpent n'avait aucune envie d'avoir un contact, simplement il tolère notre présence.
Autour de la question des serpents, je propose une nouvelle question soulevée par l'écologue Jacques Tassin, qui nous proposait, lui, de redécouvrir la sensibilité, ou de découvrir la sensibilité des végétaux, des plantes, des arbres, et d'apprendre, c'était le titre de son dernier livre, à penser comme un arbre. Écoutez sa question, elle est pour vous.
On peut trouver une forme d'analogie, de similitude entre la sensibilité des plantes et la sensibilité des serpents, qui tous les deux repèrent très aisément les vibrations sur le sol. Donc j'aimerais bien savoir finalement ce que ça lui inspire, à ce spécialiste des serpents.
Qu'est-ce que ça vous inspire, Xavier Bonnet? Est-ce qu'on pourrait, comme on redécouvre ou se reconnecte aujourd'hui à la sensibilité des végétaux, autre manière d'être vivant sur Terre, est-ce qu'on pourrait peut-être aussi comme ça découvrir, redécouvrir la sensibilité des serpents?
Oui, oui, cette partie-là de la question, je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, j'ai eu la chance, moi, de faire le métier que j'ai pu faire grâce à ça, puisque j'ai pu rencontrer un des meilleurs spécialistes en écologie et particulièrement des reptiles au monde. Bon, c'est une espèce de divinité dans le monde de la recherche, voilà, qui s'appelle Rick Shine. Et pour l'aborder, alors que j'étais petit étudiant, il m'a demandé, bon, on parlait, puis je dis, ben en fait, moi, la façon dont je travaille, c'est que je me mets à la place des serpents. Il m'a répondu tout simplement, est-ce que tu veux travailler avec moi? Donc je suis d'accord avec cette partie-là, sans aucun doute. C'est vrai qu'il faut se mettre à la place des organismes, enfin, donc c'est de...
Qu'on étudie.
Voilà, donc c'est décaler un peu sa sensibilité, quoi. Alors, ça va être maladroit, on peut le faire qu'en partie. Pour la deuxième partie de la question, les serpents ressentent les vibrations, mais leur sens principal, c'est le flair, l'odorat.
C'est l'odorat.
Oui.
C'est pas à l'ouïe.
Ce sont des animaux qui marchent essentiellement à la chimie. Leur ouïe est misérable. Ils n'ont pas d'oreille externe. L'oreille moyenne et interne brûle encore pour l'équilibre. Ils perçoivent des vibrations, mais c'est pas vraiment ce qui les fait vibrer, eux. Sauf quand il s'accouple. Le mâle fait une petite danse sur le dos de la femelle et elle y est sensible. Mais par exemple, nous, quand on marche ou des choses comme ça, donc ça, je ne suis pas tellement sûr qu'il fasse attention à ça.
Et quand vous dites, Xavier Bonnet, que pour les étudier, vous vous mettez dans la peau des serpents, c'est quoi se mettre dans la peau d'un serpent? C'est comment un serpent, il regarde le monde, il voit ce qui lui entoure, il ressent le monde, puisque c'est...
Alors j'insiste, c'est très maladroit, on ne peut pas se mettre à la place des animaux.
Bien sûr.
Mais l'effort qui est fait, c'est on se dit, face à telle situation, si j'étais un serpent, comment je m'y prendrais? Qu'est-ce que je ferais? Donc c'est plutôt un effort de perspective, quoi. Mais ça revient à un effort de sensibilité, hein.
Et le toucher, sensibilité, vous touchez les serpents?
Ah oui,
peau est...
oui, j'aime ça. Et puis quand on attrape et qu'on emmène des enfants aussi, les enfants aiment beaucoup ça. Ils sont surpris, ils disent c'est doux, c'est chaud.
c'est doux, c'est chaud. Encore une autre idée reçue hein, qu'il faut prendre à l'envers sur les serpents. Autour de la question des serpents, justement, je propose une nouvelle question sur leur comportement et sur leur intelligence, soulevée par l'éthologue Emmanuel Puy-Débat. Elle est auteure de L'intelligence animale, Cervelle d'oiseau et Mémoire d'éléphant. Écoutez sa question au micro d'Alice Milot.
Oui, Xavier Bonnet, j'ai une question pour vous. Je me demande, dans la mesure où, si je ne me trompe pas, la plupart des serpents, voire tous, sont solitaires, comment est-ce que finalement ont lieu les phénomènes, les mécanismes d'apprentissage ? C'est-à-dire, comment est-ce qu'un individu va pouvoir apprendre de ses erreurs ou progresser dans sa tâche en l'absence d'un congénère ?
Votre réponse, Xavier Bonnet, comment on transmet, comment on apprend si on est solitaire ?
Alors, c'est une très belle question. Alors, une petite mise au point, c'est vrai que ce sont des animaux solitaires, mais pas tout le temps. Donc, ils ont une vie sociale, parfois plus sophistiquée que le laisseraient penser les apparences. Et il y a des endroits où on en trouve des tapis de serpents. Donc là, ils ne sont plus du tout solitaires, ce sont des agrégations, des colonies absolument prodigieuses de serpents. C'est le cas des petites îles sur lesquelles nous allons. Donc, ça, ils sont en groupe, là, dans ce cas-là. Cela dit, c'est vrai qu'ils passent une grande partie de leur vie tout seuls et après la naissance, ils se débrouillent. Alors comment est-ce qu'ils apprennent ? Ben effectivement, ils apprennent par leur propre expérience. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin que quelqu'un leur inculque ou enfin qu'un autre leur inculque ou leur montre. Cette idée selon laquelle l'apprentissage, on a besoin d'un guide, ça vient d'une position anthropocentrique où on imagine que les autres animaux vont faire un petit peu comme les hommes, les oiseaux, où il y a des soins parentaux post-nato, après la naissance, très développé.
Parce que nous, quand on n'est pas développé du tout et on a vraiment besoin des autres pour...
En fait, on est développé quand on doit l'être et on a effectivement besoin des autres. Mais si on n'était pas développé, ce serait embêtant. On l'est pile comme il faut.
On est même une espèce néoténique qui n'est pas... qui naît extrêmement dépendant des autres.
Oui, mais ça marche très bien.
Absolument, mais ce n'est pas le cas des serpents. Oui.
Alors, effectivement, les petits serpents se débrouillent dans la vie. Et ce qu'ils ont ils ont un avantage quand même sur d'autres animaux, c'est qu'ils sont très plastiques. Alors c'est un mot scientifique qui est compliqué, mais qui est facile à comprendre. Ça veut dire que l'organisme peut être modelé par l'expérience, par son environnement. Donc un serpent, selon l'environnement qu'il va rencontrer, va changer ses habitudes, sa taille et même ses proportions corporelles. Il va épouser les formes de son environnement. Donc ça, à nouveau, on retrouve cette souplesse-là. Jusque dans son développement. Vous pouvez avoir des jumeaux de serpents, un qui part à gauche, un qui part à droite. 10 ans plus tard, il y en a un qui fait 500 grammes, l'autre il fait 5 kilos. Et aucun n'a le moindre problème.
Ils se sont adaptés chacun.
Absolument.
Et ils peuvent vivre aussi longtemps que ça.
Ça marche très bien. Donc cette plasticité est un énorme avantage. Donc leur corps, leur cerveau, leur comportement perçoivent l'environnement et modèlent l'animal. Hein. Non seulement dans son apprentissage, mais dans sa morphologie.
Voilà qui pourrait nous inspirer. Voilà en tout cas qui inspire les chercheurs, physiciens, roboticiens. Je crois que vous avez un projet d'ailleurs autour du biomimétisme inspiré du serpent.
Oui, nous avons un projet avec des collègues de Poitiers. Donc, des physiciens effectivement, mécaniciens des fluides, roboticiens, mathématiciens et modélisateurs. Et donc l'idée est toute simple. Moi, je suis biologiste dans l'affaire, donc. Et notre idée toute simple, c'est qu'on veut s'inspirer de la nage des serpents pour essayer de construire des petits robots donc qui reproduiraient le mouvement de nage des serpents. Et on veut s'inspirer en gros du sillage qui est laissé par les serpents. Ce sillage va être le reflet d'efficacité de la nage de l'animal. Plus son sillage est faible, plus il sera efficace dans ses déplacements.
Donc un serpent dans l'eau, c'est capable de se déplacer très vite, très loin, et de passer dans des endroits où on ne pourrait pas passer autrement.
Alors ce ne sont pas des nageurs très rapides, mais ils nagent très bien. Ce ne sont pas des animaux très rapides d'ailleurs, les serpents. Donc ce ne sont pas des sprinteurs. Il y a des légendes comme quoi on ne peut pas échapper à un serpent s'il rampe très vite. Non, c'est complètement faux. Ils sont faciles à attraper, je dois dire. Tant qu'on les voit, ils sont faciles à attraper, on va beaucoup plus vite qu'eux. Ce n'est pas ça leur principale qualité. Leur qualité, c'est à nouveau la souplesse et la discrétion. Et ces deux qualités m'intéressent moi en tant que biologiste pour comprendre leur évolution. Et donc j'ai besoin pour ça de l'éclairage que vont nous apporter les roboticiens, modélisateurs, mécaniciens des fluides. Et moi je les intéresse parce que je vais leur fournir du matériel et des hypothèses de nage. Et on va pouvoir comparer les animaux, leur peau, leur forme de nage, tout ces... Enfin, vraiment les étudier de près, quoi. Et l'idée, c'est d'avoir les mettre ça sous forme d'équation, et à partir de là, on aura les clés pour développer des drones.
Ah, c'est ça, pour modéliser des petits robots nageurs en forme de serpent.
Voilà, alors des petits, des moyens, des gros, tout ce qu'on veut. Des petits robots nageurs, ça peut servir à pénétrer le corps humain, et puis ça sert de véhicule hein, pour opérer, à transporter des choses,
donc
sans
on
abîmer.
On mime les serpents, hein. C'est pas des serpents qui vont pénétrer le corps humain, on mime des serpents.
Absolument, oui.
Pour venir faire des petites opérations dans l'œil, par exemple.
On peut avoir des machines avec des caméras qui sont capables d'explorer des cavités, des canalisations. Ça peut être très utile d'avoir, si on a une canalisation, on ne sait pas ce qui s'est passé, un câble qui est coupé.
On envoie le robot serpent.
On envoie le robot serpent, il va visiter les galeries. Voilà, c'est ce genre d'idée. Et puis, comme avec un seul mode de locomotion, la reptation, ça peut nager, passer dans les cailloux, dans la boue, contourner des obstacles, grimper dans les branches, ça fait une machine universelle, très efficace. Alors qu'une machine avec des roues, elle coule dans l'eau. Une machine à hélice, elle ne marche pas sur Terre. Enfin, vous voyez, c'est le prodige, c'est ça.
Et pourquoi on ne s'en est pas inspiré plus tôt des serpents ?
Ça commence. Qu'on peut demander. Il y a pas mal de labos qui sont là-dessus. Hein. Il y a aux États-Unis, au Japon, en Allemagne. Il y a plusieurs labos. Nous, notre créneau, c'est la nage. C'est parce que les autres laboratoires travaillent plutôt sur la reptation.
Donc vous, c'est la nage des serpents. Quel serait, pour terminer, Xavier Bonnet, le message le plus important à faire passer à nos auditeurs, ici comme ailleurs ?
Alors, si je devais retenir un seul message, je crois que c'est un message vis-à-vis des enfants, quoi. Il faut arrêter de mettre des peurs et des phobies dans la tête des gamins. Ça leur empoisonne la vie et ça empoisonne en cascade la vie de tout le monde. Et les serpents, c'est un exemple extrême. Beaucoup de gens ont une phobie des serpents. Or, quand on amène les gamins sur le terrain, le problème qu'on a avec eux, c'est qu'ils ont envie de les toucher et de les embrasser. Donc, il faut arrêter de les épouvanter.
Arrêtons de les épouvanter, de nous épouvanter à propos des serpents. Merci infiniment Xavier Bonnet d'être venu partager en direct votre passion mais aussi vos recherches, vos découvertes et vos pistes sur les serpents, mordus de serpents. C'est le titre de ce très beau livre publié aux éditions Regards du Vivant avec les magnifiques photos de Maxime Briolat. Merci à vous et la prochaine fois vous revenez avec le crotal.
D'accord, ou des tortues.
Ou des tortues, je prends aussi. Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. Merci, amis auditeurs, de votre curiosité. Dans quelques instants, ce sera l'heure d'un nouveau journal sur RFI.
Autour de la question sur Internet, www.rfi.fr.
Autour de la question, et oui, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas donc à nous podcaster à volonté sur le site de RFI. Au plaisir de vous retrouver demain entre tas de sable et sacs de billes. Autour de la question, pourquoi tant de matière en grain avec le physicien Étienne Guyon ? Il y aura matière et du grain à moudre. Exceptionnellement, à 15h10, temps universel, Coupe du Monde de football oblige, avec Thomas Rochaud, Apolline Vallon-Raison à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses. D'ici là, portez-vous bien, gardez l'esprit libre et ouvert à l'écoute de RFI, le prochain journal. Et oui, c'est dans une minute.